RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Elle a été enlevée, je crois. On a vu un rayon tomber directement et puis... Ah ben alors, Barbara Lefebvre, que se passe-t-il?
Elle fait ménage dans la régie.
Ah mais non, oui. Les gens.
Eh oui, ça va très vite.
Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie, Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, et Jérôme Marty, médecin généraliste. Voilà notre trio de GG. D'ici midi, de quoi allons-nous parler? Des Français qui deviennent de plus en plus agressifs au volant. C'est une étude qui le démontre. Ce sera à 11h20 tout à l'heure. 11h20, le GG 7 et match. Est-ce que l'avenir de la France dépend du contrôle de l'immigration? Oui ou non? Oui pour Barbara et Antoine, non pour Jérôme. C'est une tribune signée Édouard Balladur qui nous fait nous pencher sur la question. 10h20, doit-on mettre fin à la folie des ralentisseurs sur les routes? La très grande majorité ne sont pas conformes, mais ils sont toujours là sur nos chaussées, les ralentisseurs. Voilà les sujets sur lesquels vous allez pouvoir réagir au 32-16. Les grandes gueules sont demain à Marseille. Les grandes gueules accueillent demain la flamme olympique. Nous serons, les 5 GG et 150 000 autres personnes, enfin en toute intimité, dans la cité phocéenne. On va en parler maintenant.
RMC, les grandes gueules.
Ouais, parce que demain, nous serons à Marseille du côté du Mucem avec nos GG, avec Mehdi Guézard, avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry, différents invités aussi comme David Douillet qui sera là, Redouane Bougueraba, l'humoriste marseillais, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier.
La ministre aussi.
Oui, Madame Sabrina Agresti-Roubache. Outre l'accueil de la flamme, il y a un souci pour les Marseillais dans 8 arrondissements, c'est les poubelles qui s'entassent.
Bah oui, l'image de Marseille est encore ternie avant l'arrivée de la flamme olympique. Il faut savoir que demain, Marseille sera au centre du monde. Ça va être un événement considérable, le Bellem qui arrive dans le Vieux-Port. Et malheureusement, la CGT éboueur a décidé de profiter de l'événement pour faire pression. Et donc, les poubelles débordent dans plusieurs secteurs de la ville. C'est le 9e jour ou 10e jour sans ramassage des poubelles dans 9 arrondissements de la ville. Donc c'est une horreur, c'est ce que disent les habitants. Bon, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude des grèves des éboueurs à Marseille, mais enfin là ça tombe pas bien du tout. Le préfet va réquisitionner, donc on va voir ce qu'il en est. A priori réquisitionner, c'est-à-dire que c'est obligé les agents pour des raisons de salubrité à ramasser ses poubelles ou faire appel à des sociétés privées. Mais c'est vrai que ça tombe mal et c'est une fois plus dommage pour Marseille qui essaie de sortir de cette image parfois un peu d'image de ville sale, de ville dangereuse. Alors, il y a eu encore un règlement de compte avec un jeune de 17 ans qui a été tué. Bon, c'est dommage parce que ça fait oublier que Marseille demain sera plutôt au centre du monde.
Et quand on est allé au GG à Marseille, il y avait déjà la grève des poubelles, on est arrivé, il y avait des poubelles de partout.
Oui, oui.
Donc c'est peut-être pas une grève, c'est peut-être l'état normal de la ville.
Voilà.
Excusez-moi, peut-être qu'en fait on appelle ça une grève, mais c'est l'état normal de la ville. Personnellement, j'ai connu Marseille quand j'étais petite, je n'ai pas souvenir que la ville était aussi crado. Mais bon, c'est comme Paris, vous me direz. Mais vraiment, moi, la dernière fois qu'on y est allé, j'ai trouvé que c'était immonde. Il y avait des poubelles partout. Donc là, rien de nouveau.
En plus, tu rajoutes ça un peu de Mistral.
Voilà, et puis il faudrait pas que la flamme aille prendre le feu sur les poubelles en plastique parce que ça va faire un joli barbecue.
Qu'est-ce qu'ils demandent en fait? J'ai même pas suivi quelles sont leurs revendications.
Ce qu'ils veulent notamment, c'est une revalorisation du taux de pénibilité, passé de 15% à 30%, revoir complètement l'offre de services publics du nettoyage et la propreté urbaine. Et la métropole dit tout ceci n'est pas acceptable.
D'accord, voilà. Parce que en plus on avait eu le droit à toute la polémique sur le fameux fini parti.
Je crois que
les éboueurs de Marseille ont déjà
fait grève pour garder ce système-là.
Oui. Ont déjà un système particulier. Bref, on en parlait il y a quelques jours. Il y a des gens qui sont dans une position de privilégié dans notre pays, et je suis désolé de le dire, c'est un métier difficile, mais ils utilisent encore une fois leur position pour faire pression, etc. Pendant ce temps-là, les caissières, tous ces gens qui ne peuvent pas faire pression, restent dans des conditions difficiles. Et donc, moi, pardon, mais on doit revoir le droit de grève pour empêcher à certaines professions d'avoir cette espèce de capacité de pression facile. Et les éboueurs, on fait appel à des sociétés privées, on nettoie tout Marseille, et vous voulez rester en grève, combien de temps? On vous paiera pas, et on va voir combien vous tenez. Donc vraiment, engageons le bras de fer, faut que nos politiques et le courage tiennent bon, parce que sinon on est à la merci de tout le monde, comme on le voit aujourd'hui.
Jérôme.
Non, mais c'est de l'égoïsme pur, et c'est pourtant un syndicaliste qui vous le dit. On peut pas. Je veux dire, quand tu es en plein au centre de la mise en avant de ta ville et donc de ses habitants, et on sait les difficultés de Marseille, difficultés quotidiennes et toute l'année, quoi. Tu fais pas ça, quoi. Tu fais pas ça pour donner un peu plus une mauvaise image de la ville, pour donner une image au monde entier, parce que tu vas avoir des caméras du monde entier. Tu peux pas profiter de ce genre d'événement pour tes problèmes nombrilistes. Je veux dire, il y a un moment où l'honneur est plus important que le combat. Et là, ben c'est une image de déshonneur pour moi, quoi.
Il y a un collectif qui s'appelle Poubelle Ma Vie à Marseille.
Oui. C'est bien trouvé.
Eric Dimeco, que l'on connaît bien dans les émissions de sport d'RMC, dans le Super Moscato Show, futur porteur de la flamme, l'ami Eric est avec nous. Bonjour Eric.
Salut Alain, salut Olivier, salut les grandes gueules.
Et fierté quand même, fierté de savoir que un membre de la Dream Team RMC va porter la flamme à Marseille. Bravo, ouais. On est fiers de toi Eric, la classe.
Merci, je m'entraîne pour, j'ai beaucoup de problèmes d'arthrose, donc ce sera une course sous anti-inflammatoire, sponsorisée par les laboratoires, on ne donnera pas le nom.
Mais juste, tu vas parcourir combien de mètres avec la flamme en fait?
Je crois que c'est 500 mètres par relayeur et oui. Ils ont fait en sorte que tous les anciens sportifs, voire même les sportifs d'aujourd'hui, parce que le petit Valentin Rongier va être dans la fête, donc ce sera le soir autour du stade Vélodrome.
Oui, mais moi j'ai une question, parce que on a la liste de tous ceux qui vont porter la flamme, mais visiblement il y a une surprise. Il y a une personnalité, et on parle beaucoup de Zizou, de Zidane. Est-ce que tu as des infos, Eric?
Non, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que il y a une seule personnalité qui n'est pas connue, c'est celle qui va récupérer la flamme de Florent Manaudou et qui va faire le premier relayeur mercredi soir. Et bien sûr, quand on parle de sport, quand on parle de personnalité marseillaise qui pourrait marquer les esprits, Zizou vient en premier, bien sûr.
Ouais, ça serait très classe.
Bon, dis donc, la fête est pas gâchée par les histoires des poubelles, là, Eric?
Alors écoute, Anaïs, quand elle m'a appelé pour passer, elle m'avait pas dit le thème du débat quand même.
C'est bizarre.
Vous êtes gonflé. Hein. Moi, j'aurais préféré, Alain, que tu me parles de la finale éventuelle de la Ligue Europa de l'Olympique de Marseille.
Il y a encore un match à passer.
Oui, non, mais bon, j'aurais aimé que tu me parles de ça, des poubelles. Je suis pas bien placé. Moi, il faut appeler la mairie, la métropole, ceux qui sont concernés. Moi, tu sais, je le subis, hein, parce que je vis dans le centre-ville de Marseille.
Oui, donc t'es concerné quand même, puisque tu le subis.
Oui, non, mais comme le disait Barbara, c'est récurrent chez nous et on le subit, voilà. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir entreposer mes poubelles sans les laisser dehors pendant un long moment, mais c'est pas le cas de tous les Marseillais. Et du coup, ça peut devenir vite très, très, très désagréable. Ouais.
Mais on a fait... comment ça se passe à Marseille? C'est puisqu'on arrive ce soir, nous. Mais c'est viable ou c'est la pagaille avec tous les sens qui sont mis, les sens interdits, les barrières et autres, Eric?
Non, mais là, ça va être... Ben, le centre-ville va être bouclé. Donc, à partir de ce soir, ça va être difficile de s'approcher en voiture, voire même en scooter du Vieux-Port. Demain, n'en parlons pas, puisque beaucoup de le président de la République sera là, notamment. Donc, dès qu'il y a le président de la République, il y a tous les autres élus qui grenouillent, plus des sportifs, plus des people. Donc, ça va être le gros barnum. Alors, ça va faire une superbe animation, hein, super point de vue sur la ville. Mais c'est vrai que ça va être un peu le bazar et puis il y a ces problèmes liés vous l'avez parlé, hein, les problèmes de poubelles, etc.
D'accord. Ok. On te voit demain ou ce soir peut-être.
Non, mais on va se croiser ce soir obligatoirement. je vais vous montrer ce que c'est l'ambiance à Marseille le soir de match de Coupe d'Europe.
Voilà, attends, moi j'ai un problème, Eric, je suis désolé. Moi, en tant que supporter du PSG, déjà, je loupé la première mi-temps. Je suis pas sûr que la deuxième mi-temps, j'ai envie de voir avec des Marseillais, mais bon.
Tu verras, c'est particulier, oui.
Tu vas passer une bonne soirée,
je crois. Mais comme je pense qu'on va gagner, le problème, c'est que je serai dans une ambiance, vous serez tous en train de faire la gueule, alors que je serai le seul à me féliciter de la qualification finale.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète pour toi, surtout, c'est si vous ne vous qualifiez pas et qu'il y a la fin autour de toi, pendant que toi, tu fais la gueule. C'est ça qui m'inquiète surtout. <C'est...
rire> J'ai pas doute que c'est pas le scénario envisagé.
Barbara, une question.
Non, mais vous savez peut-être, mais j'imagine bien que les images qui vont être faites vont être des belles images bien léchées et que du coup, il va sans doute y avoir des réquisitions pour enlever les poubelles qui sont sur les sites filmés pour faire les belles images des JO. Ils vont quand même pas faire passer les relayeurs de flammes au milieu des poubelles.
Ah ben je, oui, j'espère.
Mais pour les Marseillais, alors, ils sont toujours au milieu des poubelles, par contre. Flamme ou pas flamme.
Voilà, le problème, Barbara, dans cette histoire, c'est que on va faire en sorte. Je pense, hein, moi, je le dis, moi, je suis qu'un simple citoyen marseillais. Je pense qu'on va faire en sorte que les images soient belles, alors que le problème sera toujours là. C'est peu l'histoire de la vie, ça. Hein. C'est,
ça va surtout être l'histoire des JO, surtout. Mais parce oui, qu'après, mais moi, on va avoir Paris, ça va être pareil. Les jolies images et la réalité derrière, c'est autre chose.
J'avais couvert la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Ouais. Il y avait de belles images dans un pays où il y avait des grosses difficultés économiques et sociales. Et c'était passé à l'acte, hein. Malheureusement, c'est l'histoire de la vie.
Ouais.
Merci Eric, à ce soir. Ce soir, salut Eric, merci d'avoir été quelques instants avec nous à ce soir et avant avec le Moscato Show, bien sûr, à partir de 18h. Alex, tiens, et éboueur dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Alex.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous vouliez faire une mise au point, Alex?
Oui, je voulais intervenir parce que je vous écoutais là. Et j'écoutais, je voyais que vous n'avez pas toutes les informations. Allez-y. Les revendications pour lesquelles on fait grève. Il faut savoir que si on fait grève, déjà, premièrement, c'est pas un amusement, hein, parce que à la fin du mois, on perd de l'argent. Hein, donc moi, je prends pas plaisir à faire grève, ni mes collègues. Et si on fait grève, c'est parce qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est que on n'est pas mis sur le même point d'égalité avec toutes les autres communes. Il faut le savoir aussi, parce que vous avez parlé du pourcentage de la pénibilité, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qui s'appelle un RICEP sur notre paye, c'est une genre de prime qui n'est pas équitable. Et la présidente Martine Vassal avait dit qu'elle allait le mettre équitable avec toutes les communes, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Vous prenez par exemple Istres ou Martigues ou Aubagne, ils n'ont pas le même RICEP que nous. Ils gagnent 200 euros de plus que nous.
D'accord.
Alors qu'on sait très bien que Marseille, c'est la ville la plus difficile pour que ce soit la collecte, que ce soit le nettoiement et tout ça. Voilà, je ne veux pas cracher sur les collègues de Aubagne ou Istres ou Martigues, mais en tout cas, eux, ils touchent 745 euros de RICEP. Nous, on est à 550 pour certains, ceux qui conduisent des engins, et 520 pour les autres.
Alors, ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire c'était une promesse qu'on vous avait faite, c'est ça?
C'est pas une promesse, c'est qu'elle l'avait dit, elle devait le faire, et soi-disant, elle le fait pas pour telle ou telle raison. Mais ça doit être normal, puisqu'on est dans une métropole, on est dans la même métropole, on a la même présidente. Donc, pour tout le monde. Donc, on devrait être payé la même chose, au minimum.
Vous êtes en train de nous dire, Alex, que vous êtes tous des agents de la métropole, mais que selon la ville dans laquelle vous travaillez, vous avez des salaires différents.
Bien sûr. Ça me paraît étonnant. Des années.
Parce que si vous êtes les agents de la métropole,
comment ça se justifie?
Je comprends pas.
Ah ben, ce qui justifie, c'est que les personnes qui s'occupaient à l'époque, c'était avec les communautés. C'était pas la métropole. À l'époque, ben, les maires, ils avaient pris leur devant de ces villes-là. Et ils avaient mis au maximum le RICEP, ce que je vous dis là. La prime qui était supérieure.
Le régime
d'habitat. On devait s'ajuster. Martine Vassal avait dit qu'on allait ajuster au plus haut, mais elle ne l'a pas fait. Voilà, donc il faut comprendre tout la colère, parce que nous on a eu une restructuration là, il n'y a pas longtemps dans certains secteurs de la ville, et c'est pour ça que c'est comme ça.
Et l'histoire du fini parti, tout le monde est au fini parti.
Ça fait des années, il n'y a plus de fini parti, ça n'existe plus.
C'est parti.
Il y a une pointeuse, il y a eu la pointeuse.
C'est pas fini, mais on est parti.
Voilà.
Okay. Non, il y a une pointeuse.
La question qu'on se posait, c'est la période, c'est le choix de la période et le choix de ce jour si particulier pour Marseille.
Monsieur, je vais vous expliquer. On a déposé un préavis de grève depuis le 9 avril. Le 9 avril. Donc depuis ce temps-là, ils auraient pu prendre rendez-vous avec nous et essayer de trouver une solution. Maintenant, malheureusement, ça arrive qu'il y a la flamme qui doit arriver demain. Eh ben, c'est malheureux, encore une fois, pour Marseille, ça va peut-être faire tâche, nous, on n'a pas le choix.
Et demain, les poubelles ne seront pas ramassées, alors? Demain,
ils ne sont pas ramassés, les poubelles, monsieur. Ils ne sont pas ramassés.
Il n'y a pas de réquisition?
Le préfet voulait réquisitionner.
Il n'y a pas de réquisition. Il y a des lois pour ça. Il n'y a pas de maladie, là. Il y a des gens qui sont grévistes. Ils ne peuvent pas faire de réquisition pour ça. Voilà, maintenant, ils le font déjà. Hors la loi, ils font déjà collecter le privé.
Ils peuvent faire venir des éboueurs d'une autre ville, monsieur. Ils vont faire venir.
Ah bon? Non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils le font pas. Voilà, il faut appel au privé, qui ont déjà eu du travail dans d'autres arrondissements, ils arrivent à peine à s'en sortir. Donc là, ils font un style de faire croire que tout est beau, tout est bien, parce que ça va passer à la télé. Donc le passage de la flamme, bien sûr, vous allez pas voir de poubelle, mais par contre, tout le reste de la ville, il y a de la poubelle de partout.
Oui, mais moi, moi, je me pose une question quand même, parce que j'ai connu Marseille dans les années 80, etc. Bon, c'est une ville du bassin méditerranéen, c'est une ville où on vit beaucoup à l'extérieur. Donc bon, mais excusez-moi, au cours de la dernière décennie, les rares fois où je suis allée à Marseille, à chaque fois il y avait des poubelles qui débordaient de partout. Je vais pas vous dire que Paris c'est plus propre, mais enfin on n'est quand même pas arrivé à ce niveau-là. Je ne comprends pas la dégradation de la propreté à Marseille. Comment vous l'expliquez-vous?
Eh ben moi je l'explique parce que déjà l'organisation elle est mauvaise. Et les gens qui s'occupent de ça, qui sont censés être nos dirigeants, voilà, ils font mal les choses. Ils sont pas au courant du métier. Ils savent pas. Ils ont jamais touché une poubelle ou un conteneur. Et c'est eux qui décident de tout. Je vous dis, là, il y a eu une restructuration, là. Il y a un mois, moi, je suis au secteur 11-12 nuit, à la base. Là, on est passé du matin. C'est le bordel. C'est le bordel. D'accord. On passe que deux fois dans des endroits, alors qu'avant, on passait six fois par semaine. Parce que monsieur, il veut appliquer les lois de la Commission européenne qui dit qu'il faut faire le tri et tout ça. Mais c'est pas possible de tout changer comme ça. Marseille, c'est une ville spéciale. Marseille, c'est une ville qui est, comme vous l'avez dit, c'est une ville méditerranéenne. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de, comment dire.
Il n'y a pas que du vent, hein, enfin.
Non mais il y a beaucoup de vent, ça joue beaucoup, madame, pour la propriété.
Oui, ça joue.
Là, enfin, justement, il y a du Mistral.
Il y a aussi beaucoup du je jette ma poubelle n'importe comment. Ça, c'est pas trop.
Mais oui, mais c'est pas de sa faute, c'est citoyen. Ouais, mais ça, il faut rééduquer les gens. On fait comment?
C'est notre travail. Vous avez raison aussi.
Nous, on fait notre travail. Après, les gens, ils font n'importe quoi. Vous voulez qu'on fasse comment?
Alex, merci de cette mise au point.
Non, mais les Marseillais n'ont pas toujours fait n'importe comment. Moi, encore une fois, mon grand-père, en plus, était Marseillais. Enfin, il était Corse, mais il a vécu toute son enfance à Marseille. Il en avait un souvenir extraordinaire. Les photos que je vois de mon grand-père dans les années, du coup, les années 20-30, à Marseille, c'était pas dégueulasse comme ça, je suis désolée.
Peut-être que les gens ont changé.
Oui, peut-être
bah
que
voilà,
les gens ont changé.
Peut-être ça un peu.
Ça, sans doute.
Peut-être que la consommation a changé aussi.
Oui, la consommation, c'est-à-dire qu'on a plus de déchets qu'avant.
Parce que si tu pesais le sac de poubelle, tu vois. Ah,
l'alerte, Ligue des Champions, même, hein. Paris Saint-Germain, Dortmund, c'est ce soir l'expérience à vivre, l'expérience RMC. Vous faites l'avant-match avec les équipes d'RMC, vous allez au parc à deux ensuite et vous revenez faire le débrief du match. Ça se tente, vous m'envoyez PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner, le gagnant justement. En direct tout à l'heure avec nous à 11h20. Dans un instant.
Je peux lancer quand même un appel puisqu'on parle de Marseille, parce que demain on va passer la journée à Marseille et on aimerait bien trouver un bon petit resto avec une
déjeuner.
Terrasse. Oui, parce qu'il va faire très beau demain à Marseille. Ouais. Donc s'il y a une petite terrasse, si quelqu'un, un fan des GG, nous écoute, je sais que chez les restaurateurs, on nous écoute beaucoup.
Passer par le 32-16, voilà, Anaïs s'en occupe.
Un plaisir avec l'équipe, venir déjeuner chez vous.
On y est 27, non. On a un budget de 12 euros par tête. 20 compris et le dessert aussi.
Au cordeau.
Non, c'est pas pareil. On y est une petite, comment on est 8?
Non, on est 13, je crois, 13-14.
Ouais, 13 à table.
13
à table. On trouve un 14e. Dans un instant, 90% des ralentisseurs ne sont pas conformes. Ça, c'est encore une spécificité française. Venons en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Dierce, consultant auprès des entreprises, Jérôme Marty, médecin généraliste, et nous sommes avec Barbara Lefebvre qui est professeure d'histoire-géographie. On va parler des routes encore, me direz-vous. Oui, parce que ça ne s'arrange pas. La semaine dernière, c'était l'état de nos routes, vous savez, avec la fissure de la 13, et là maintenant, c'est les ralentisseurs non conformes.
RMC, les grandes gueules.
En fait, c'est la spécialité française, les ralentisseurs non conformes. On détient le record du monde de ralentisseurs. On en a plus de 450 000 aujourd'hui dans le pays. Et 90% dépassent les 10 cm de hauteur réglementaire. Écoutez ce qu'en dit cet avocat spécialisé des questions routières, justement.
Pour l'instant, la cour administrative n'impose pas la destruction de ces ralentisseurs pour des raisons certainement liées au coût.
Oui.
Dorénavant, un maire ne peut plus installer un ralentisseur hors norme. À défaut, ce ralentisseur serait détruit par une décision judiciaire à venir. Ça coûte aussi cher de le détruire que de le construire. Un ralentisseur, ça coûte entre 7500 euros pour les plus simples, jusqu'à 150 000 euros.
Quoi ? 150 000 euros le dodane ?
Mais oui.
Non mais ça va pas la tête. Hein.
Oui, c'est en fait.
Ah c'est une manne. Hein.
Le problème, c'est qu'il va falloir maintenant mettre aux normes ces ralentisseurs, parce que tu as dit plus de 450 000. Alors on les appelle. Il y a plusieurs noms. Il y a Dodane, il y a Coussin Berlinois,
gendarme couché.
Bon bref.
Coussin Berlinois, moi je l'aime bien celui-là parce que t'arrives bien à le prendre sur le côté et des fois tu peux l'éviter. Ouais.
Alors, le problème, c'est que maintenant, il va falloir appliquer la loi. C'est arrêté marseillais qui fixe des règles. Et ça va être compliqué du côté des élus parce qu'il va falloir effectivement revoir, peut-être supprimer des dodanes. En tout cas, qui n'a pas pesté contre ces dodanes en se disant mince, je suis en train de péter ma bagnole.
Ouais, Antoine, alors on va parler de ça, mais on va aussi parler de l'autre côté, de l'envers du décor, parce que je le dis souvent ici, j'ai bossé pour des élus locaux et régulièrement on avait à la mairie des gens qui venaient nous voir en disant oui, ça roule beaucoup trop vite dans notre rue. Si vous nous mettez pas un ralentisseur à dodane, c'est donc que vous voulez la mort de nos enfants, etc. Donc l'élu, il est pris dans une espèce de pression entre les habitants de la rue qui lui demandent le dodane, hein, qui l'exigent, parce que sinon il les laisse face au danger des voitures qui roulent vite, et l'automobiliste qui lui voit beaucoup trop de dodane partout. Et donc je pense qu'en fait on est encore une fois dans le truc très français de on veut un dodane mais pas sur notre route. Chacun voudrait un dodane dans sa rue pour que les gens roulent moins vite. Mais quand c'est nous qui sommes au volant, on voudrait qu'il n'y ait plus de dodane.
Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, dans ma rue, effectivement, il y a un dodane, mais il en faudrait un autre à un autre endroit. Parce que...
Tu vois, tout le monde en rajoutait un déjà.
Oui, mais moi-même,
parce que c'est une conduite... Mais ailleurs, non.
Non, mais j'ai une conduite un peu nerveuse que j'admets, et je m'en excuse, ça, je le reconnais.
C'est bizarre.
Voilà. Mais du coup, je me dis, des fois, heureusement qu'il y a des dodanes. Parce que grâce à ça, je ralentis. Il y a les radars, je connais, et il y a des dodanes. Parce que parfois, dans certaines situations, je pense que s'il n'y avait pas le dodane, j'irais un peu vite. Donc, moi, je pense que les dodanes, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on fasse des dodanes qui ne soient pas conformes à la réglementation. Moi, j'aime bien les dodanes comme ça, qui sont un peu larges et longs, ce qui fait que tu le prends, t'es vraiment obligé de ralentir, mais c'est pas un truc brutal. Il y a des dodanes qui sont très courts, très étroits, et ceux-là, ils te tapent la caisse de la voiture. Alors que les dodanes qui sont un peu longs, eh ben, t'es quand même obligé de ralentir, et je suis désolée pour les gens qui ont des conduites qui ne sont pas forcément des conduites très raisonnables et qui ne roulent pas à 30 à l'heure en ville. Le dodane, c'est bien quand même.
Non, mais excusez-moi, mais le plus fou, c'est qu'on est quand même le pays des normes. Et que sur cette problématique-là, on respecte pas les normes, on fait n'importe quoi. Et donc, pour éviter un danger, on crée un danger. Parce qu'alors, amusez-vous à prendre des dodanes qui ne respectent pas l'angulation, avec une peinture qui glisse, le tout sous la pluie et en moto.
Oui.
Garantie qu'il y a un vrai danger. Ensuite, quelle est la protection des gens, des riverains, je parle, ou des gens qui habitent à un endroit où on met un dodane? Parce que je peux vous garantir que votre maison, elle perd sacrément de sa valeur. Parce que quand toute la journée, vous entendez papam, 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 des milliers de fois,
et la
devenir dingue. Donc, quelle est la protection? Parce qu'on n'en parle jamais, mais il y a une dévalorisation totale, quoi. Donc, moi, ce qui m'étonne le plus, alors. Et ensuite, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces marchés? Parce que comment les mairies choisissent de ne pas respecter une norme et d'éventuellement provoquer un accident. Là, ça me trouble un peu, moi.
Après le lobby des ronds-points.
On aura peut-être un maire qui va nous l'expliquer.
Mais moi, je me pose une autre question. On s'est aperçu, on en parlait à propos de l'autoroute A13, qui est toujours fermée d'ailleurs entre Vaucresson et Paris. Et on s'est aperçu à cette occasion que l'état de nos routes était mauvais. Que d'ailleurs, on a dégringolé au classement de la qualité des routes. Nous sommes passés de la première à la 18e place. Parce que on met moins d'argent dans l'entretien de la voirie. Parallèlement, on apprend qu'on débourse un pognon de dingue dans les ralentisseurs. Donc d'un côté, c'est collectivités qui se plaignent toujours de manquer d'argent. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas un maire qui se plaint pas. J'ai plus d'argent. Bon. Donc ces gens-là dépensent entre 35 000 et 150 000 euros par dodane et en même temps n'entretiennent pas la voirie, ce qui est tout aussi dangereux d'ailleurs pour l'accidentologie, parce que si des ponts s'écroulent, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que soit on n'a pas d'argent, mais dans ce cas-là, on n'a pas d'argent non plus pour le ralentisseur. Mais évidemment, on a de l'argent pour les ronds-points et les ralentisseurs, mais on en a moins pour entretenir les ponts, les viaducs et les routes.
On va en parler du côté de la Seine-Maritime avec Charles, qui est employé de voirie. Bonjour Charles.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Ah, donc du coup, employé de voirie à Vorom, c'est ça?
À Marom,
exactement. À Marom, pardon. Donc vous êtes de la partie, si je puis dire.
Alors en fait, moi je suis dans une société qui loue des engins, ces engins-là, ce sont des finishers.
Oui.
Et on applique les enrobés sur les routes, et avec ces engins-là, ça nous arrive parfois de faire des dodanes, des ronds-points, etc. quoi.
Ouais, mais pourquoi, comment vous expliquez, un, qu'on en ait autant, et deux, qu'il y en ait autant qui ne soient pas conformes, alors?
Bah, en fait, le souci, c'est qu'on est dans l'ère ultra sécuritaire. Je vois, comme j'ai expliqué à votre intervenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un cercle vicieux. Et aujourd'hui, on fait que des ronds-points, que des dodanes, tout ça pour limiter la vitesse. Mais aujourd'hui, il y en a trop, si vous voulez. Par exemple, prenez le cas des ronds-points aujourd'hui. Je crois qu'en France, on a entre 40 ou 50 000 ronds-points. le deuxième pays dans le monde où il y en a le plus, je ne sais plus lequel que c'est, mais je crois que c'est l'Allemagne. Il n'y en a que 15 000. Et je trouve qu'en France, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, par rapport au coût et à l'entretien, aujourd'hui, avec toutes les histoires de routes où il y a des nids de poules, tout le tralala, là, tout à l'heure, je vous entendais dire, avec 150 000 euros, enfin, vous disiez que 150 000 euros, on pouvait faire un dodan. Mais aujourd'hui, avec 150 000 euros, on pourrait faire un route départemental dans une campagne qui est complètement
fermée, voilà. Si vous voulez. Exactement.
Ah oui.
Donc, les ronds-points, c'est des choix. Business, hein, les ronds-points, ça fait travailler les entreprises locales.
Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour diminuer la vitesse dans les villes? Non, mais qu'est-ce que tu fais pour diminuer la vitesse dans les villes? Parce qu'il y a énormément de gens qui se font renverser sur des passages
boutés. Je suis d'accord.
Il y a énormément de gens qui ne respectent pas la priorité. Mmh. La conduite en ville, elle est vraiment hyper dangereuse. Enfin...
Alors après, attention, il y a quand même deux types de conduite aussi, c'est que en ville, bon, c'est quelque chose, on est que dans les dodanes ou comment dire, les passages piétons, il y a des feux à tout coin de rue, tout tralala, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on sait très bien que dans les villes, il y a beaucoup plus, par exemple, d'écoles, de collèges, de trucs comme ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on oublie un peu aussi tout ce qui est les campagnes, tout tralala, où il y a vraiment besoin, parce que moi, je vois dans mon métier, on fait ce qu'on appelle aussi des purges, c'est-à-dire des endroits où il y a des nids de poules. On va les raboter, puis on va remettre de l'enrobé dessus, mais c'est sur des toutes petites surfaces. Le problème, c'est que ça, c'est un peu comme des boutons d'acné, ça repousse de partout, donc vous allez revenir quelques mois après pour reboucher. Et quand vous faites des dodanes, bon, c'est bien, mais le problème, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de l'argent en France, enfin,
voilà,
au niveau des communes ou je sais pas quoi, que pour faire les centres-villes, les métropoles, pour faire la politique sécuritaire. Sur les dodanes ou même sur des plateaux.
Et on délaisse le périurbain.
L'entretien du périurbain,
voilà. Mais attends, moi, je veux bien comprendre que les métropoles soient belles et qu'elles soient accueillantes. Je vois, là, c'est le cas pour Paris avec les JO. On est en train de refaire tout un tas de quartiers comme, je vois le quartier où il y a eu les manifestations le 1er mai. J'ai été faire toutes les pistes cyclables là-bas.
À Paris, tout l'argent est parti sur les pistes cyclables. En revanche, la voirie est pas bien entretenue. Alors, il y a les nids partout à Paris. Hein.
Charles, vous allez voir, on va en discuter avec Thierry Modolo, qui est gestionnaire de patrimoine, qui est dans le Var et qui est porte-parole et fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Bonjour Thierry.
Bonjour Alain. Bonjour les GG.
Bonjour. Alors c'est vrai que on est toujours épaté. On y revient régulièrement. Pourquoi ça prend autant de temps d'arriver à mettre des dodanes aux normes et de faire en sorte qu'on en ait moins surtout, Thierry?
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de normes, on est déjà dans la phase d'après. La première chose qui rend illégal un ralentisseur, c'est l'endroit où on le met. C'est le décret. Et en fait, aujourd'hui, le système a été totalement dévoyé à cause d'un organisme d'État que vous connaissez tous et qui s'appelle le CEREMA. Ce sont des fonctionnaires d'État payés avec nos impôts et dont le seul but et d'inciter les élus à ne pas respecter la loi, notamment sur les ralentisseurs. Tout à l'heure, j'ai entendu plein de choses très intéressantes. Je crois que c'est M. Marty qui a parlé du prix d'une maison. Alors la perte, c'est 30%.
Ah oui, quand même.
Oui. Ah oui, ça fait mal, ouais.
Quand on a des dodanes devant chez soi, ça dévalue de 30% le prix du foncier.
Absolument.
La vache.
30%. Le coût des ralentisseurs, c'est plus de 7 milliards d'euros en 10 ans. Normalement, le décret de 94, qui a 30 ans ce mois-ci, a été prévu pour enlever toutes ces dangerosités de la route. C'est ainsi que ça a été créé, et pour cette raison-là. En théorie, aujourd'hui, nous ne devrions plus avoir un seul ralentisseur, quasiment plus un seul ralentisseur en France. Absolument.
Pourquoi ? Parce que leur dangerosité a été avérée.
Absolument. Et nous, d'ailleurs, à l'association, nous avons des personnes lourdement accidentées, dont certains, le préjudice se compte en millions d'euros, qui sont gérés.
Et qu'est-ce qu'on peut faire comme recours pour obliger une collectivité à supprimer ces dodanes ?
Alors, déjà, pour supprimer les dodanes, le prochain recours, c'est devant le Conseil d'État, puisque la Cour d'appel de Marseille a jugé que, finalement, on n'apportait pas la preuve de la pollution et pas la preuve de la dangerosité. Or, il a été avéré, et nous avons produit des études qui prouvent le contraire. Donc ça va se discuter devant le Conseil d'État dans les mois qui viennent. Pour vous donner un ordre d'idée, un ralentisseur, c'est pour chaque véhicule qui passe, plus 25% de pollution, plus 30% de gaz à effet de serre, et plus 300 à 1000% de particules fines, par véhicule, par dodane. Il y en a 450 000. Aujourd'hui, on nous parle du matin au soir, et vous en faites l'écho dans les grandes gueules, toute la journée de pollution,
de gaz à effet de serre.
En fait, les élus sont les premiers à générer volontairement, parce que c'est volontaire, puisqu'on ne respecte pas la loi, volontairement la pollution en France.
C'est dingue.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des riverains qui demandent des ralentisseurs devant chez eux dans leur rue, quoi. Donc, l'élu est un peu pris entre deux feux.
Merci Thierry de ces explications. Merci à Charles d'avoir été avec nous, l'employé de Voirie. À suivre, parce que comme nous le disait Thierry Modolo, en fait, aujourd'hui, les communes doivent supprimer, si j'ai bien compris, les ralentisseurs, puisqu'il y a la loi à attester de la dangerosité, mais elles ne le font pas. Allez, dans un instant, avec les grandes gueules, rejoignez-nous au 32-16 pour discuter de la tribune d'Edouard Balladur dans le Figaro.
Il a eu 95 ans, il y a quelques jours.
L'ancien Premier ministre fait des propositions parce que, dit-il, la France est victime de déclassement. La première d'entre elles, aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle de son immigration. Est-ce qu'il a raison, l'ancien Premier ministre? Oui pour Barbara et Antoine, non pour Jérôme, et on en parle avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous au 32-16. On parlait de la route il y a quelques instants. Avec les ralentisseurs, on reviendra sur la route, mais cette fois-ci dans l'habitacle, avec les Français qui deviennent de plus en plus agressifs au volant. Pourquoi ? 32-16 pour en discuter tout à l'heure à 11h20 avec nous. On klaxonne, on injurie, on colle délibérément le véhicule qui nous précède. Notre comportement est véritablement en train de changer. Il y a toujours eu au volant quand même des comportements, on va dire, individuels, sauf que là on a l'impression que ça se généralise, ça touche tout le monde. Tout le monde a son accès de colère, son accès de folie aujourd'hui au volant. Pourquoi? 11h20, on essaiera de comprendre ça avec vous au 32-16. Peut-être avec les responsables d'auto-école, est-ce que ça se traduit déjà au moment des leçons de conduite? Venez en discuter avec nous. En attendant, on va évoquer la tribune de l'ancien Premier ministre Edouard Balladur.
RMC.
GG, 7 et match.
La France est victime de déclassement économique, social, culturel, diplomatique et militaire.
Rien que ça.
C'est ce que dit Edouard Balladur, l'ancien Premier ministre. Et donc, il fait le diagnostic et il évoque un certain nombre de solutions, l'ancien chef du gouvernement. Il dit qu'il faut retrouver notre souveraineté nationale en matière de contrôle d'immigration, car, dit-il, notre avenir en dépend, et, dit Edouard Balladur, pour ce faire, le seul à détenir la légitimité nécessaire pour décider ce qu'il a à faire, eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple français. Et donc, il faut un référendum pour modifier l'article 11 de la Constitution, pouvoir avoir un référendum sur l'immigration. Alors, est-ce qu'il a raison, Edouard Balladur? L'avenir de la France aujourd'hui dépend du contrôle de l'immigration. 32-16 pour le dire au GG. Oui! Pour Barbara, Antoine et Olivier, non pour un homme seul face au reste du monde. C'est le docteur Jérôme Marty, dont on peut prédire la pulvérisation façon puzzle, normalement. Dans le résultat.
Mais le garçon a de la ressource.
On l'espère. Antoine, c'est à toi que reviennent les 60 secondes.
Non, on avait dit Barbara.
Là, ça va être un peu pareil. Mais le sujet, c'est l'immigration, mais quand même, qu'il me soit permis de dire que c'est quand même fort de café, qu'un personnage comme Monsieur Balladur, qui a été député de 86 à 2007, qui a été Premier ministre de 86 à 88, et qui a même dirigé la présidence...
Premier ministre, pas de 86-88, c'était
93-95, pardon. 93-95, Premier ministre, et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007. Il a découvert, à 95 ans, donc je dis, mieux vaut tard que jamais, donc il y a toujours de l'espoir. Maintenant, Monsieur Balladur a bien raison. Je vais prendre seulement sous l'ère de Monsieur Macron, parce qu'on va rester sur l'ère macroniste. On est à 3,5 millions d'entrées en France régulières, c'est-à-dire les réguliers, plus les demandeurs d'asile, dont on sait qu'ils sont environ 142 000 demandeurs d'asile pour 2022, par exemple, et que seule une toute petite poignée aura son asile. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème, parce que derrière tout ça, on a un problème de misère sociale pour eux, de misère économique qui fait une surreprésentation carcérale. On le rappellera, 24% de la population carcérale en France est étrangère, alors que c'est 7% de la population totale. On a un problème d'insertion économique et culturelle. Donc bien sûr qu'il faut...
Alors, réponse, Jérôme.
Mais on va développer tout cela.
Non, mais Le titre est important. L'avenir de la France dépend-il de son contrôle de l'immigration ? Oui, certainement, il faut faire beaucoup de choses pour l'immigration, mais de là à dire que l'avenir de la France dépend de cela, excusez-moi, mais on est dans une exagération totale et fantasmatique. Je veux dire, on se rapproche à ce moment-là, l'immigration choisie, le grand remplacement, etc. On sait d'où ça vient, tous ces termes-là. Et quand Monsieur Balladur, du haut de ses 95 ans, effectivement, nous assène cela et fait une espèce de dierce dans le texte, la France était mieux avant. Là, on a été déclassé partout. On a été complètement déclassé partout. On donne une fois de plus. Ben, la prime au Rassemblement National, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie.
Donne raison.
Donc quand on veut jouer les. Ben en fait, on donne la prime à l'autre. Et c'est dangereux parce qu'encore une fois, d'abord, oui, il y a des immigrés qui rentrent sur le territoire français et en nombre, mais combien restent ? Ils ne restent pas tous là.
Oh bah
on est une porte d'entrée pour l'Europe et tu en as beaucoup qui partent en Angleterre, qui partent en Allemagne, qui partent dans d'autres pays.
Qui arrivent, donc
ensuite, quand on commence à parler d'immigration choisie, vous irez me trouver qui fera la dame pipi. Vous irez me trouver qui fait les métiers difficiles, etc., etc. Vous les prendrez plus.
Il y a plein de Français.
Dites aux Français qu'ils le fassent.
Si tu les payes, les Français le font.
Mais non,
c'est parce que c'est des métiers sous-payés par le patronat, bien sûr que si.
Oui, bien sûr.
Mais même Georges Marchais le disait déjà dans les années 80.
Oui. Tu as raison.
Et même Jaurès l'a dit. C'est précisément parce qu'on fait du dumping salarial.
Je te rappelle que nos hôpitaux, par exemple, tournent avec des médecins à 90% ou 95% avec des PADU, des médecins à diplôme en réunion.
Qui sont moins bien payés.
La faute au numerus clausus, la faute à tout ça, voilà, aux politiques.
C'est pas venu de là. C'est venu de la désertion, justement, parce que les gens ne voulaient plus aller travailler dans ces endroits-là.
Pourquoi ?
Parce que c'était pas assez payé.
Quand la France était un pays où il faisait bon travailler, où on pouvait vivre de son salaire, où il y avait une possibilité d'ascension sociale pour ses enfants, excuse-moi, bien sûr que l'immigration ça existait. Je vais pas te dire, il faut une immigration zéro, ça veut rien dire. La France, il y a
tout le monde adorait manier le marteau piqueur. Avant c'était les Espagnols, après ça a été les Italiens, après ça a été les Maghrébins.
C'était dans des proportions qui étaient assimilables et intégrables par le corps social. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. L'éponge, elle est pleine.
D'accord, mais ce qui est intéressant, parce que sortons un peu des caricatures, on a besoin d'immigrés, etc. Ils font le boulot que les Français ne veulent plus faire, d'accord. Mais ce que dit Balladur, et justement, c'est pas Bardella ni Marine Le Pen. Édouard Balladur, c'est quelqu'un de raisonnable. Il a été le conseiller de Georges Pompidou, conseiller présidentiel de Georges Pompidou.
C'est beaucoup de conneries, Balladur.
Qui a donc connu effectivement la France qui allait bien, celle de Georges Pompidou. Et je pense que ça a été plutôt un bon premier ministre lorsqu'il était premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Et avec le recul, chacun dit que effectivement, quand Balladur était à Matignon, c'était plutôt bien tenu, aussi bien son gouvernement que sa majorité, il n'y avait pas de frondeur. Il a mené des politiques. Il dit quoi ? Il dit, en fait, le problème, c'est que l'Europe est en train de se fédéraliser et qu'à un moment donné, ça va nous échapper le contrôle de notre politique migratoire. On a déjà adopté le pacte d'asile immigration. Or, au sein de l'Europe, tout le monde n'a pas le même point de vue sur cette question de l'immigration. Donc, il dit, il faut simplement que la France puisse garder quand même le moyen des leviers pour décider elle-même.
Hypocrisie de Monsieur Balladur qui a été un des acteurs de la Constitution Maastricht et la Constitution le référendum sur la Constitution en 2005. Il faisait partie de ceux qui nous serinaient en nous disant c'est l'avenir, faut voter la Constitution, et les Français ont dit non, et les Français on leur a dit allez va te faire voir. Donc là aujourd'hui il nous parle les dangers du fédéralisme. C'est un mec comme ça qui a voté oui à la Constitution européenne.
Je vais être moins dur que toi. Moi, j'ai envie d'accueillir tous ceux qui se rachètent un peu avant de voir la fin arriver.
On a le droit de se tromper.
Et qu'ils disent.
C'est là qu'on voit que t'es un humaniste, en fait.
Exactement. Je suis un grand humaniste. Mais que même Balladur finissent par dire les gars, allô, on a un problème avec l'immigration. Et surtout, il a un truc extrêmement intéressant dans son écrit là, c'est qu'il dit nous devons permettre aux Français de faire un référendum. Nous devons modifier la Constitution. C'est une réponse.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. Il faut faire un référendum avant.
Attends, on ne peut pas. D'après ce que dit le président du Conseil constitutionnel, qui utilise le levier constitutionnel pour verrouiller le débat. Donc, on n'a pas le droit de décider.
C'est la faute de l'emphabus.
Exactement. Sur l'immigration, vous n'auriez pas le droit de décider, les Français. Donc, si même Balladur dit ce serait pas mal qu'on soit un petit peu démocrate, ce serait pas mal que les Français puissent choisir.
Lui, il dit qu'il faut faire deux référendums. Il dit qu'il faut faire un référendum pour modifier l'article 11 de la Constitution
pour qu'on puisse faire un référendum sur l'immigration.
Donc, il
dit la même chose que Fabius.
Oui, non, mais il répond à Fabius en disant non, mais ça doit pas. Fabius, il dit non, on peut pas.
Non,
et Balladur, il dit oui, on peut, mais on va le faire en deux référendums. Eh bien, moi, je dis merci, monsieur Balladur. c'est un peu tard, mais si enfin nos élites donnent la parole au peuple français par un référendum, si enfin on va pouvoir choisir,
mais non,
bah moi je
Antoine,
pense
quand
je
on
pense
fait des référendums,
ça...
on n'écoute pas la parole des Français.
Là-dessus,
mais là, ils veulent pas le faire le référendum, ils connaissent déjà le résultat, ils pourront bien nous faire tous les plateaux télé et tous les débats qu'ils voudront.
Oui,
toutes les enquêtes d'opinion
le
disent, on le sait, alors, les Français, ils pensent qu'il faut faire un... plus qu'un moratoire, oui, un gros stop, et déjà qu'on a, non, on là, intègre ceux qui sont
vous,
là, mais qu'on les intègre
vous,
vraiment.
La coalition européenne sera un
parce
premier référendum.
Vous,
là,
ah bah le ça, attention, là, attention. Parce que pour vous, va, la politique et la grandeur d'un homme politique, ça se résume à un mot stop.
Hein? Je vous demande de vous arrêter.
Non, mais voilà, exactement. C'est exactement ça. Non, mais on va connaître un choc climatique énorme, avec des déplacements de la population qu'on ne pourra pas empêcher,
on
ne vous en déplaise. Qu'on ne pourra pas empêcher parce que des territoires entiers deviendront inhabitables.
De
on le sait tous.
Si.
Je veux dire, ça a déjà commencé. Tu as dit là, en ce moment où on parle, tu as des endroits où il fait 50 degrés.
Oui, mais l'essentiel,
où tu peux pas sortir.
Attention.
Tu ne peux pas, mais ça va remonter.
Jérôme, attention.
On sait que d'ici.
L'essentiel des migrations climatiques sont locales.
On sait que d'ici 20-30 ans, des zones entières du monde deviendront inhabitables. Oui, donc tu auras des déplacements de population. Donc un homme politique.
C'est la France qui devient inhabitable avec l'immigration.
Un homme politique, gouverner, c'est prévoir. C'est pas juste dire stop. C'est construire l'avenir par rapport à ça.
Juste
comment tu vas faire face par rapport à ça? C'est là où je dis non.
Les raisons de plus qu'il faut.
Mettre.
Mais personne. Enfin, je pense. Personne ne dit qu'il y aura plus jamais d'immigration. Peut-être Antoine.
Ah, si. Moi
je dis pas. Moi, je pense qu'on a besoin d'une immigration parce qu'en plus on est un pays vieillissant. C'est-à-dire qu'on peut pas en même temps ne plus vouloir faire d'enfants et pas avoir d'immigrés. Je pense que ça marche pas. Soit on fait plus d'enfants et dans ce cas-là on renouvelle les générations. Soit il faudra bien des gens pour payer nos retraites et faire fonctionner les services publics, etc.
Ce que je veux dire.
D'accord. Mais
tu as 34% des étrangers qui sont inactifs.
Alors, je suis d'accord avec toi.
Dire,
mais quand on sera en plein emploi, on aura quand même toujours besoin d'immigrer.
Je te suis.
Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra quand même l'organiser.
Oui.
Mais tu me dis l'immigration climatique. Mais si tu laisses
pas terminer
les frontières ouvertes, ça va être le grand.
Je n'ai pas terminé mon propos. Le fantasme qui vise à laisser croire qu'on va être en capacité d'empêcher les vagues migratoires est une idiocie.
Parce qu'on n'a plus les moyens
de empêcher l'autre passer.
Et donc,
par contre, travailler encore une fois sur l'emploi, sur ces choses-là, bien sûr, il faut.
Mais préparer
le choc climatique en disant la vérité aux Français et en disant que oui, demain, il y aura plutôt plus d'émigrés que moins. C'est aussi ça le courage politique.
Mais
parce que
le reste,
c'est se faire la cerise électorale à peu de frais en racontant n'importe quoi sur les années qui vont arriver.
Mais moi, je vais te dire une chose. Si déjà, quand un étranger, parce qu'on a déjà suffisamment de délinquants en France, mais si on pouvait déjà s'épargner la surreprésentation et le surplus de délinquants étrangers, si déjà il y avait une politique ferme que tu commets un délit ou un crime, tu rentres dans ton pays, et si ton pays veut pas de toi, de toute façon tu y rentres quand même, crois-moi que les Français, ils auraient peut-être une autre vision aussi de la question de l'immigration et de tous ces immigrés qui, oui, veulent venir en France pour s'intégrer économiquement, pour s'intégrer culturellement et pour travailler et pour enfin donner une chance à leurs enfants. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème,
mais
c'est que tu as 35% des étrangers qui sont impliqués dans les vols violents et dont une partie d'entre eux, pour 34% d'entre eux, sont des mineurs non accompagnés. Si déjà
ça,
on réglait ces questions-là,
l'Europe nous oblige à les garder.
Mais
on peut pas les raccompagner.
C'est ce que je pense de l'Europe d'Ursula. Bon, voilà.
Oui, enfin,
donc moi, j'ai voté non au référendum. Coup, donc je suis cohérente avec moi-même.
C'est Barbara qui revient.
Non,
quoi,
moi, je suis cohérente avec moi-même. Je suis pour l'Europe des nations. J'ai pas honte de le dire. Et j'ai pas attendu que des politiques parlent en face leur slogan pour être pour l'Europe des nations. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que tous les aspects, on va dire, négatifs de l'immigration ne sont pas traités, ce qui empêche tous les immigrés qui s'intègrent, qui viennent travailler et avec lesquels il n'y a pas de problème d'être aussi stigmatisés et pointés du doigt. Donc moi, je pense qu'il faut une politique extrêmement ferme avec tous ceux qui ne s'intègrent pas économiquement et en particulier culturellement. La France, c'est la France. Tu viens à Rome, fais comme les Romains. Tu viens pas nous imposer tes codes culturels.
Dans un instant, suite de la discussion, est-ce qu'Edouard Balladur a raison? L'avenir de la France dépend de son contrôle de l'immigration. Il faut donc un référendum. 32-16 pour en discuter avec les GG. Barbara, Antoine et Olivier sont trois face à Jérôme Marty qui est tout seul. Qui va remporter le match? Où en est le score? Vous saurez ça dans un instant.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.